antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et à minuit 35, nous accueillons Nicole au 39-21. Bonsoir Nicole.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, bonsoir.
D'où on s'appelle Nicole ce soir?
Alors, j'appelle de l'Isère.
De l'Isère,
pas loin,
d'accord.
De Grenoble, voilà, pas loin de Grenoble. Je suis déjà passée à l'antenne.
D'accord.
Voilà, donc... J'ai téléphoné, oui. J'étais au bout du rouleau, je suis dans un moment de ma vie qui est compliqué, parce que, comme j'avais expliqué, mon mari a la maladie d'Alzheimer, et donc il est en EHPAD,
oui.
Et moi, je me retrouve avec des revenus très bas, puisqu'il avait un petit peu plus de retraite que moi.
Oui.
Donc, j'ai 660 euros de retraite pour vivre.
Oui.
Donc, c'est une chute vertigineuse.
Mais racontez-moi, Nicole, en fait, pourquoi votre mari est décédé ou il est en EHPAD là ?
Non, il a une maladie d'Alzheimer.
D'accord, mais voilà. Il ne touche plus sa retraite ?
Si, mais je suis obligée de tout donner à l'EHPAD.
À l'EHPAD, d'accord, d'accord.
Voilà.
Oui.
Donc, donc ça c'était le premier épisode. Et puis j'ai 5 enfants. J'ai élevé mes enfants, j'ai tout donné à mes enfants, comme beaucoup de mamans.
Oui.
Et donc, à cause d'un médecin, la première fois il y a 2 ans, il avait détecté qu'il avait la maladie. Et puis après, il est revenu sur ce qu'il avait dit, le médecin. Et devant mes enfants, il avait demandé que tous mes enfants soient là. Il a dit que mon mari n'avait rien du tout et qu'il allait très bien. Donc de là, certains de mes enfants ont dit « mais c'est maman qui ne va pas bien, papa va très bien ». Voilà. Ils ne s'en sont pas sortis de ce diagnostic.
Mais...
Après, mon mari a été vu par un vrai... neurologue,
oui.
Et ça a été détecté, il a eu une ponction lombaire, etc. Puis il a eu une démence frontotemporale. Et puis je l'ai gardé jusqu'à temps que j'ai pu. Et puis les médecins ont décidé de le mettre en EHPAD. Donc il est rentré le 25 janvier dans l'EHPAD. Voilà. Mes enfants ont demandé rendez-vous à l'EHPAD. Ils ne veulent pas que leur père soit là-bas. Donc, ils ont demandé de le garder, Et puis, j'ai un problème avec l'EHPAD, parce que, pas un problème vraiment, mais je ne sais pas comment faire, parce que en fait, l'EHPAD, ils ont, quand on met quelqu'un dans un EHPAD,
oui.
On n'a plus la main sur la personne. C'est comme si on était dépossédé, en fait.
Comment ça ?
C'est-à-dire que je ne peux plus prendre de décision, c'est eux qui décident, c'est eux mon mari ne m'appartient plus à ce moment-là.
C'est dingue, c'est fou ça.
Oui. Alors aujourd'hui, j'ai eu le rendez-vous avec, il voulait à tout prix que je vienne, parce que j'avais demandé rendez-vous avec le médecin de l'EHPAD,
oui.
Et mes enfants avaient demandé un rendez-vous en même temps. Donc, 3 de mes enfants sur 5 étaient là. Il y avait l'assistante sociale, la psychologue, il y avait la directrice de l'EHPAD et puis le médecin d'EHPAD. Voilà. Moi, j'avais demandé un rendez-vous parce que quand on met quelqu'un en EHPAD, on n'a plus la main sur la santé. Moi, mon mari a des gros problèmes de santé. Donc, j'avais demandé un rendez-vous pour lui dire, n'oubliez pas qu'il faut qu'il ait un anévrisme abdominal. N'oubliez pas qu'il faut prendre rendez-vous parce qu'il a un examen tous les 6 mois. Et pour le surveiller, quoi, il faut vraiment surveiller.
Oui. Pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Mais vos enfants, quand ils sont à un rendez-vous comme ça à l'hôpital, ils oui. réalisent quand même enfin que vous n'avez pas... vous outrepassez vos prérogatives par rapport à votre mari et qu'il doit se trouver dans un lieu médicalisé, votre mari ?
Eh bien non, justement.
C'est fou.
Ils ont décidé, mes enfants, aujourd'hui. Ils ont dit, Ma fille a dit on veut récupérer le dossier médical de mon père. Oui. Alors, le médecin n'a rien dit pour enfin, à ce moment-là. Mm-hmm. Et moi, j'ai. C'est-à-dire que, voilà, pour résumer, mes enfants doutent de la maladie de mon mari. Pour moi, pour eux, et leur père n'a rien à faire là-bas, il va très bien. Voilà, c'est, pour résumer, c'est ça.
Et vous, vous dites qu'il a un Alzheimer prononcé ?
Alors, il a Alzheimer. Alors, prononcé, il n'est pas non plus à déambuler dans les couloirs, tout ça, mais il est dans, une, dans un endroit où c'est médicalisé, où il est protégé, où il est, on prend soin de lui. Voilà. Et puis, pour Olivier, pour tout vous dire, c'est qu'il y a au mois de janvier, j'ai reçu un papier comme quoi mon mari devait témoigner. C'est mon fils aîné qui a porté plainte contre moi pour maltraitance contre son père. Donc elles sont venues, elles étaient bienveillantes, les inspectrices, parce qu'elles ont posé une question à mon mari. D'abord, elles lui ont dit est-ce que, combien vous avez d'enfants, il ne s'en souvenait plus. Et puis, elles ont dit... alors moi, elle parlait de mes enfants, j'ai dit, mais vous connaissez mes enfants. Alors, elle dit, ben, vous devez bien vous douter pourquoi je suis là. En fait, c'est mon fils qui a porté plainte contre moi pour maltraitance. Il a dit que je battais mon mari. Il a dit que son père, je lui avais enlevé le permis. Voilà, alors que c'est un médecin agréé qui a enlevé le permis à mon mari avec sa maladie. Alors que mon mari faisait des malaises cardiaques. Il tombait et il se fracassait la tête, tous les genoux, ça dépendait comment il tombait. Oui. Parce qu'il avait son cœur qui s'arrêtait, il avait donc un problème, un gros problème cardiaque. On lui a posé une pile donc, au mois de septembre, mm-hmm. le 12 septembre de l'année dernière. Voilà, donc alors moi, je n'ai pas été inquiétée par la police parce qu'elle m'a dit, vous savez, on a compris tout de suite, quand on a demandé à votre mari combien il avait d'enfants, il ne s'en souvenait plus, donc... les gens qui ont un membre de la famille qui a Alzheimer comprennent tout de suite comment ça se présente et ce qu'on subit, quoi, ce qu'on oui. vit tous les jours. Voilà. Et donc, elle m'a dit, vous inquiétez pas, de toute façon, ça n'ira pas loin, on perd notre temps parce que mon fils venait jamais nous voir. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, j'avais sur les 5 enfants, 3 de mes enfants et ma fille a complètement... changer d'attitude, alors que d'habitude, elle disait que ben, son père commençait à être violent, que, voilà, que je m'envoyais avec. Et voilà, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, c'était trop difficile. C'est trop dur la vie, c'est trop dur, elle est trop dure ma vie. Vous savez, j'ai parlé du passage à l'acte, et donc j'ai 2 psychologues qui me suivent, et quand... je leur dis que je ne sais pas si je ne passerai pas à l'acte, je ne sais pas. Parce que 5 minutes avant de passer à l'acte, on ne sait pas quand on va passer à l'acte, oui, qu'on va se suicider. Voilà. Donc, alors, je n'ai plus les moyens financiers puisque toute la retraite de mon mari est prise pour payer l'EHPAD, parce que les EHPAD sont très chers.
Vos enfants doivent payer l'EHPAD, je suppose, non ?
Eh ben, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils veulent récupérer leur père.
Mais oui, parce que les pâtes, c'est pas gratuit. Hein. Ils sont, encore une fois, et c'est ça qu'ils ont, vos enfants. Oui. C'est un problème d'argent. Ils veulent pas payer les pâtes.
Exactement. Alors que l'assistante sociale a dit, dites à vos enfants qu'ils ne vont pas payer, puisqu'ils ont des crédits pour rembourser une maison, etc. C'est juste ça. On a beau leur dire, mais ils ont peur. Mon fils m'avait dit... parce que j'ai 3 garçons et 2 filles, un de mes fils m'avait dit « il est hors de question que je paye pour l'EHPAD de papa voilà. ». Alors, donc, il se pose plusieurs problèmes. C'est que moi, j'ai dit d'accord s'ils veulent prendre leur père, mais d'abord, je ne sais pas s'ils vont bien s'en occuper parce que la charge est tellement énorme.
Ils ne se rendent pas compte. Quel âge ont-ils, vos enfants ?
Alors, ça va de 52 à 30, bah 40 bientôt, là, 40 cette année.
Et voilà. Qui va prendre votre mari chez lui ?
Alors, ils ont décidé entre eux, Olivier Vous voyez, ils ont décidé entre eux. Là, il y avait la psychologue, elle a dit, mais cette conversation, est-ce que vous l'avez entre vous? Alors, je dis, ben non, parce que mes enfants ne m'ont pas dit. Ils auraient pu me dire, maman, si tu veux, on va prendre papa, on va s'en occuper, parce que, voilà. Mais moi, je suis devant le fait accompli aujourd'hui. Ça s'est passé cet après-midi, justement. Donc, voilà. Et puis, ils vont s'en occuper. J'ai dit, d'accord. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais ils ne se rendent même pas compte que c'était pour les protéger que j'ai gardé leur père jusqu'à que je ne puisse plus, quoi. Et puis, ça fait des mois que je n'ai pas payé le loyer, donc ils ont fait une demande d'expulsion. Je vais passer au tribunal.
Qui a fait une demande d'expulsion?
Ben, les propriétaires de l'appartement. Donc, alors mes enfants, Olivier, je n'ai jamais un coup de fil de mes enfants. Il n'y a que le dernier qui est cuisinier, qui vient tout le temps me voir, qui m'appelle, qui me fait des petits coucous. Il habite dans la ville où je vis. Enfin, il travaille dans la ville où je vis.
Et il ne parle pas avec ses frères et sœurs pour leur dire...
Alors, il dit que c'est le plus jeune, il n'y arrive pas. Il dit que c'est à eux à voir. Il a dit, moi, je m'occupe de toi, tu vois, je viens te voir. Il me rassure, voilà, c'est mon soleil. Mais oui. Les autres, je n'ai pas un coup de fil. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on m'appelle, qu'on me dise « Allô, maman, ça va ?» etc. Mais pas un coup de fil. Olivier, j'ai eu un cancer du sein. On m'a opéré deux fois. Là, en 2021, j'ai refait un autre... pas cancer, mais c'était tellement... Je l'enlever parce que c'était... comment dire, ils l'ont analysé après, mais c'était c'est un papillomavirus, je ne sais pas quoi, donc ça se serait transformé en cancer. Ils ne sont jamais venus me voir à l'hôpital. Jamais. J'étais opérée 9 fois du ventre. Ils ne sont jamais venus me voir. Ils n'ont jamais pris une nouvelle. Voilà. Et je ne sais plus ma vie, de quoi elle est faite, qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'ai tout donné à mes enfants. Tout. Tout. Et mes filles, elles m'appelaient, maman, j'ai pas de quoi acheter du pain. J'allais vite à la poste pour envoyer un mandat cash. Maman, j'ai pas ceci. J'ai donné. Quand je travaillais il y a des années, mais voilà. Et là, aujourd'hui, je n'ai plus personne, Olivier, parce que j'ai perdu ma sœur. On était très proches. J'ai perdu mon beau-frère en 2020, donc le mari de ma sœur.
Oui.
Et là, aujourd'hui, Olivier, ce qui se passe, et je sais que je ne suis pas la seule, c'est qu'il y a des jours comme ça où je ne vais pas bien, et je me dis, je vais appeler qui? Avant, j'avais ma sœur, je l'aurais appelée, j'aurais dit, allô, voilà ce qui se passe. Elle m'aurait... rassurée, elle m'aurait donné les clés pour que je m'en sorte. Mais là, j'ai plus rien, j'ai plus personne. Je suis complètement isolée aujourd'hui,
oui.
C'est quand même dingue, mais je suis complètement isolée. Et là, je dois partir de cet appartement. Moi, c'est monstrueux de redéménager à nouveau. C'est de retrouver...
Quelle honte que vous ayez une retraite de 600 euros. Je reçois un message au 739-21 de Gigi qui va bientôt toucher une retraite de 300 euros.
Et ben voilà.
Mais quel affront.
Oui.
Quel affront de proposer des retraites en dessous de 1000 euros. Mais c'est indécent.
Oui. Parce que...
C'est
parce
indécent. Comment on vit avec 600 euros aujourd'hui?
Ouais.
Comment?
Olivier, j'ai travaillé. J'ai travaillé beaucoup parce que mon mari avait une entreprise. J'ai fait la comptabilité. J'ai même formé une employée de bureau. À cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'était tout sur des registres. J'ai fait des feuilles de salaire. J'ai fait des déclarations d'URSSAF. J'ai tout fait. Je tapais à la machine les factures, les devis, etc. Et à cette époque, on n'était pas déclaré conjoint collaborateur, ça n'existait pas. Et en fait, j'ai que mes yeux pour pleurer, parce que la plupart du temps, j'étais là pour mon mari, pour son entreprise.
Mmh.
Et puis, j'ai eu 5 enfants, donc ça compte très peu. ça compte très peu, ça doit être 10%. Mais le problème, c'est que quand j'ai eu 60 ans, comme une imbécile, je me suis mis à la retraite. Moi, j'ai demandé ma retraite. Tu dis, ben voilà. Et ben, j'ai eu une retraite à 50%. Parce que la loi venait de changer juste. Moi, je suis de janvier, donc en fin de l'année de mes 60 ans, enfin l'année d'avant. Eh bien, la loi venait de changer qu'il fallait travailler un petit peu plus pour avoir une retraite à taux plein. Donc, j'ai une retraite à taux, enfin, à moitié. Alors, voilà. Il n'y a même pas un loyer qui existe. Hein. C'est-à-dire que si on paye un loyer, on n'a plus rien pour vivre. Hein. Parce que à ce montant-là, mon mari est parti le 25 à l'EHPAD. On a fait une demande d'APL, mais ça va mettre un mois pour traiter. Et puis, on ne sait pas encore combien d'argent je vais avoir pour les APL, mais ça ne va jamais faire le loyer total. Donc, je dois partir d'où je suis encore à nouveau. J'ai fait ça toute ma vie, Olivier, parce que le 23 août 1987, la foudre est tombée sur notre maison. J'étais dedans avec trois de mes enfants. Mon mari était parti aux champignons. Parce qu'il avait entendu tonner, il a dit ben, « je vais aux champignons ». Je lui ai dit, je faisais ma comptabilité pour l'entreprise, j'ai dit ben, « tu m'avais dit que tu m'aiderais ». Il m'a dit ben, « dès que je reviens, je vais t'aider
oui. ».
Et puis, il y a un de mes garçons qui est monté, il avait 3 ans, il est monté, et il a vu les flammes, il a hurlé. Alors moi, j'ai attrapé mes enfants, je suis sortie, il y avait déjà plein de monde sur la route, ils avaient fermé la route. Ils ont demandé à la voisine « est-ce qu'il y a du monde dans la maison ?» Et la voisine a dit « non, il n'y a pas de voiture ». Et donc, quand ils m'ont vu sortir avec mes trois petits,
oui.
Ils ont halluciné. Et là, ce jour-là, les pompiers ont mis 45 minutes à venir. Et en fait, quand ils sont arrivés, c'était trop tard, la maison était le feu était en bas. Alors, les pompiers, il n'y a pas eu d'enquête parce que les pompiers ont dit, ils ont entendu sonner, tonner, les gendarmes aussi, parce que c'est une petite ville de province. Hein. Et donc, ils ont entendu, ils ont dit, tiens, la foudre est tombée quelque part. C'était sûr, c'était tellement ça avait été puissant. Et en fait, ils m'ont dit, les pompiers, que la boule de feu avait été sous le toit, avait embrasé toute la laine de verre. Donc, le toit a brûlé et s'est embrasé en entier. Il n'y a pas eu de point de... Voilà. Et on avait un crédit. En 79, on a emprunté 320 000 francs jusqu'en 87. Et en 87, je faisais ma comptabilité et j'ai dit, ah, enfin, ça y est, on entame le capital de 320 francs. Parce qu'on avait un... Les crédits comme ça sont interdits maintenant.
Oui.
C'est-à-dire, pendant des années, on a payé l'intérêt à la banque, la caisse d'épargne, entre autres. Et donc, en 87, ils nous ont repris la somme de 398 000 francs.
398
000 francs. Oui, parce qu'ils ont dit que la maison a été frappée d'alignement, qu'on ne pourrait pas la refaire. On l'a vendue, on a vendu la ruine. La maison, elle est toujours là. Elle n'a jamais été frappée d'alignement. Donc, nous, on a fait une procédure contre la caisse d'épargne. Et on a perdu et on a été condamné à payer, je crois à cette époque c'était passé en euros, je ne me souviens plus, mais c'est 50 000 francs, 50 000 euros, voilà. Ils nous ont dit on ne vous demande rien parce qu'on sait que vous avez déjà tout perdu, Olivier, tout perdu. C'est-à-dire que je suis pratiquement devenue folle parce que j'avais que quelque chose dans la tête, il fallait que je m'achète, j'avais tout perdu et il fallait à tout prix que je m'achète une machine à café. Une cafetière, je ne sais pas pourquoi, la cafetière. Alors que j'avais plus de divan, plus de lit, plus rien, plus de vêtements, mais c'était ça. Et on ne s'en est jamais remis parce que c'est comme si on avait payé deux maisons dans notre vie. Et on a toujours été en location, toujours.
Vous avez tout perdu en gros.
On a tout perdu. Les souvenirs, les photos de mes enfants à cette époque, c'était que de l'argentique, il n'y avait pas de numérique. On a tout perdu, notre vie. Et des années après, même 20 ans après, des fois, je disais à mon mari, « Ah, mais tu te souviens, on avait ça comme... » Parce qu'on a tellement de choses dans notre vie, on accumule tellement de choses,
oui.
de souvenirs, que des fois, on n'a plus rien pour prouver, c'est que notre seule mémoire. Et donc, dans la mémoire, des fois, on oublie certaines choses. Et puis, voilà. Et j'ai élevé mes enfants. À l'école, ils m'ont dit, c'est incroyable avec ce que vous avez vécu. Parce que mes enfants, on les a gardés unis. On est restés unis avec nos enfants pour pas qu'ils souffrent de ça. Et je disais à cette époque à mes enfants, écoutez, nous, on a eu tout ça, mais vous faites en sorte que votre vie soit la meilleure possible et que vous fassiez, que vous ayez une belle vie. Votre père et moi, on a subi tout ça, mais vous faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Et tous mes enfants ont un boulot, des diplômes, ils travaillent tous. Et voilà, pour moi, à cette époque, c'était le principal. Et aujourd'hui, je ne peux pas compter sur eux. Aujourd'hui, j'ai été dépossédée de ma vie parce que quand je suis partie de l'EHPAD cet après-midi du rendez-vous, j'ai pas eu, à part mon jeune fils qui est cuisinier, là, qui est venu et qui s'occupe bien de moi, mais les autres, non. Voilà.
Eh ben...
Je ne sais pas ce que j'allais devenir, Olivier, je ne sais pas. Et puis, j'ai plus envie de lutter parce que les gens me disent, mais si, Nicole, tu es fort, tu vas t'en sortir, tu t'en es sorti, parce que quand on voit tout ce que j'ai eu pendant toute ma vie, et puis j'ai même plus les moyens de m'acheter à manger, là.
Ouais.
C'est-à-dire que je fais plus de courses.
Et vous, vous n'avez pas de famille autour de vous ou d'amis qui vont pouvoir vous recueillir, vous aider?
Alors, pour l'instant, non. J'ai une amie qui m'a dit que si jamais je devenais SDF, elle m'a dit « tu viendras chez nous ». Mais j'ai pas envie de ça, moi, parce que c'est toute une vie, là.
Oui,
c'est
mais toute une vie aussi. Écoutez-moi, Nicole.
Oui.
Quoi qu'il arrive, bien évidemment, la vie est injuste, et bien évidemment, vous avez raison de dire que la vie est dure. Mais si les choses se gâtent par malheur, ne refusez pas les mains qu'on vous tend, surtout. Ne mettez pas là-dedans de la fierté, de l'ego, parce que vous savez... J'ai assez recueilli de paroles de gens qui, pendant des années, ont perdu du temps à refuser les mains tendues, justement, par pudeur, hein, souvent. Et finalement, si j'ai pu échanger avec eux après, c'est qu'ils ont réalisé qu'il fallait, les prendre, ces mains tendues. Mmh. Il fallait les saisir, parce qu'elles sont le salut. Ce sont des mains qui sont envoyées... On ne sait pas comment, pourquoi, mais souvent, ce sont c'est de l'amour, c'est de la beauté humaine, c'est de la solidarité, de l'humanité. Et tout peut repartir à partir de là, vous savez. C'est surtout ça aussi qui est important. Je pense à Elisabeth, que j'ai rencontrée, avec qui j'ai fait Dans les yeux d'Olivier, et qui était à Bordeaux, et qui a été SDF à un moment. Vous l'avez vu ?
Oui,
vous voyez, Elisabeth, aujourd'hui, elle s'occupe des autres, elle a trouvé un sens à sa vie, nouveau, et il y a quelque chose qui repart, qui recommence.
Oui.
Vous avez encore votre petit dernier qui s'occupe de vous, pensez à lui aussi.
Oui, mais je voudrais tellement... d'abord, je voudrais changer de région. Je ne veux plus rester ici dans l'Isère parce que je n'ai pas d'amis, parce que les Dauphinois sont trop durs.
Oui.
Mais seulement, Olivier, dès que je veux faire quelque chose, les gens me disent qu'il faut sortir, il faut aller rencontrer des amis, faire des amis. Mais c'est, à chaque fois, c'est une question d'argent.
Bien sûr.
Une question, est-ce que je vais pouvoir payer un verre ? Est-ce que je vais pouvoir... Voilà.
Mais vous savez, mais je pense que vos amis n'attendent pas ça de vous. N'oubliez pas ça non plus. Ils savent très bien que vous n'avez pas les moyens. Ils savent très bien. Vous savez, les gens sont pas idiots. Et autour de vous, si vous avez encore des amis, c'est que vous êtes quelqu'un de lumineux, c'est que vous avez des qualités, Nicole. Et donc, ne baissez pas les bras. En tout cas, vous savez, vous connaissez le chemin. Vous savez que je suis là. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez.
Oui, hein, je veux bien.
D'accord.
Oui,
vraiment, je vous le dis, parce que c'est la fin de l'émission. Là.
Oui, d'accord.
On est obligé de se quitter, mais vous savez que je suis là, en tout cas, et qu'il y a Florian, il y a Julia, donc vous pouvez toujours nous appeler, d'accord ?
Je vous rappellerai. Merci
d'accord.
beaucoup. Il n'y a que vous qui pouvez me sauver la vie.
Écoutez,
discuter.
Si je peux faire ça, en tout cas.
C'est être à l'écoute de quelqu'un, être à mon écoute, que je puisse
parler.
Je suis là.
Voilà. D'accord ?
Oui.
Je vous embrasse, Nicole.
Beaucoup. Merci beaucoup,
au revoir,
Olivier.
Courage.
Au revoir. Merci, au revoir.